commencer le message, pas pour aller dans le sens contraire de ce que Clem et Miguel ont pu partager sur le fait qu'on va pleurer, etc., mais juste un encouragement par rapport à ça. Quand je pense au départ de Jésus-Christ, lorsqu'il est monté dans les cieux et que ses disciples étaient encore en train de le chercher, c'est bien la preuve que Jésus n'a pas pris le temps de, à ce moment-là en tout cas, de pleurer avec eux, de dire « Oh non, on va se séparer !» Parce que Jésus-Christ leur avait fait une promesse. « Je vais vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi. » Et finalement, souvent, les fins de semaine d'évangélisation ou de camp sont l'occasion de déchirement, de tiraillement, parce que on s'est attaché aux frères, et c'est la communion fraternelle, c'est normal, hein, aux frères et aux sœurs. Mais essayons de garder cette pensée, c'est que il y a un endroit où on va se voir pour l'éternité et on va prendre plaisir les uns avec les autres d'une façon incomparable. Et donc, il est nécessaire qu'en attendant, nous soyons à l'œuvre pour préparer ce moment, là où le Seigneur nous appelle, là où il nous envoie. Ok. Alors, ce sera plus un partage qu'une prédication, encore une fois. Je vous invite à prendre Genèse, et si vous voulez bien, on va lire quelques passages. Donc Genèse chapitre 1, 2 et 3. On va pas lire l'ensemble, je vais juste replacer le contexte. C'est le récit de la création, le Seigneur, l'Éternel, a créé la terre en 6 jours, par sa parole, n'est-ce pas ? Littéralement, il a donc créé toute chose et il termine la création par ce qu'on peut considérer être la cerise sur le gâteau ou la merveille dans sa création, c'est l'homme et la femme créés à son image. Il leur donne la responsabilité de gérer la terre, c'est-à-dire d'être ses représentants en fait. En étant les images de Dieu sur terre, nous sommes la diffusion de sa gloire. Il demande à l'homme et à la femme de se multiplier, et ça, cette fois, c'est le fait de répandre sa gloire aux quatre coins du monde. Et on connaît la suite. Adam et Ève, placés dans le jardin, ont une consigne supplémentaire qui est de ne pas toucher à un seul arbre. Et malheureusement, avec le concours de Satan et la tentation donc du serpent, Adam et Ève vont transgresser la loi de Dieu. Et ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde, c'est quelque chose qui pendant des mois et des mois m'a tourmenté, entre guillemets, c'est cette question de savoir pourquoi, dans Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et pourquoi, dans Genèse 3, verset 6 et 7, qu'on va lire. La femme donc et l'homme devinrent honteux de leur nudité. Le texte nous dit « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. » Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. En regardant plusieurs commentaires sur ce fait, j'ai été confirmé dans ce que j'avais cru comprendre de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et si je peux donner un titre à ce partage, ce serait lorsque mon œil est voilé, la réalité reste inchangée. Lorsque mon œil est voilé, la réalité reste inchangée. Le serpent, Guillaume l'avait partagé, et Raph aussi, il n'est pas du genre à raconter un gros mensonge si énorme qu'on le voit venir à des kilomètres. Mais ce qu'il aime faire, c'est prendre la vérité et la recouvrir d'un ensemble de mensonges ou en tout cas la changer suffisamment, subtilement, pour qu'on ne se rende compte de rien. Et là, ça devient séduisant. Je vous propose de lire ce qui s'est passé juste avant, et de lire donc les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Le serpent, à ce moment-là, en ayant transformé la vérité, il vient justement de faire le contraire de ce que Dieu avait fait en donnant l'avertissement. Dieu, en créant Adam et Ève, en leur faisant connaître ce qui est bien, et en leur donnant l'avertissement, leur avait au contraire ouvert les yeux. Ils étaient conscients de ce qui était bon pour eux. Et Satan, à ce moment-là, au contraire, lui, va leur fermer les yeux, en leur disant que finalement ce que Dieu a dit n'est pas la vérité. Or, nous savons que la parole de Dieu est lumière. Et si la parole de Dieu est lumière, toute parole qui contredit la parole de Dieu nous plonge dans les ténèbres. Et pour revenir donc à la relation entre le fait que, dans un premier temps, Adam et Ève n'étaient pas incommodés de leur nudité et que d'un coup, ils le sont, voici ce qui s'est passé entre-temps. Il faut déjà comprendre que la nudité d'Adam et Ève, avant la chute, leur permettait une chose très simple. C'était de reconnaître leurs différences physiques et de se souvenir que Dieu nous a créés différents pour un but précis. Et donc, ça leur permettait de se souvenir qu'ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Régner sur la terre, se multiplier, et plus tard, Paul nous révélera être une image, une allégorie de la relation entre Jésus-Christ et l'Église. Le problème, c'est que lorsque le serpent est venu semer le doute, il n'a pas seulement semé le doute sur ce que Dieu a dit, mais du coup sur ce que Adam et Ève devraient faire et quelle était leur vocation réelle. Et il leur a insufflé l'idée que peut-être Dieu s'étant trompé, leur réelle vocation n'est pas d'être des créatures de Dieu obéissantes, mais peut-être eux-mêmes leur propre Dieu, eux-mêmes à la hauteur de Dieu, eux-mêmes en mesure de décider, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, plus que Dieu, ou au moins autant que lui. Et donc, ils prennent de ce fruit. Ils en mangent, pensant que quelque chose de radicalement différent va arriver, pensant que véritablement ils vont s'élever au niveau de Dieu. Et la honte qui s'ensuit, c'est tout simplement le fait qu'ils réalisent qu'ils en sont au même état. Toujours hommes et femmes, créés par Dieu, toujours dans le jardin, mais cette fois, ennemis de Dieu, parce qu'ils sont sortis du plan de Dieu. Et l'application concrète pour nos vies, c'est qu'il faut qu'on réalise que lorsque notre œil, c'est-à-dire notre compréhension des choses, notre pensée est imprégnée, influencée, distraite par des principes, des paroles, des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, nous courons tous ce risque de commettre un péché, et à la fin de ce péché, d'avoir le remords de réaliser qu'en fait, on est au même endroit. Parce que le péché, c'est une promesse de bonheur qui, en fait, aboutit irrévocablement et inchangeablement à de la tristesse, à du remords et à un conflit avec le vrai bonheur qui se trouve en Dieu. N'est-ce pas, la parole nous dit « Faites de l'Éternel votre délice et il vous donnera ce que votre cœur désire. Lorsque nous cherchons notre bonheur en dehors de l'Éternel, nous trouverons certainement des joies, mais elles seront courtes et elles seront conclues par la tristesse et la mort. Ce récit m'encourage vraiment à être radical, en fait. À être radical. On entend souvent ça dans nos milieux, être un chrétien radical. Mais qu'est-ce que c'est finalement être un chrétien radical? Est-ce que c'est porter un t-shirt « Jésus t'aime » dans la rue? Ou est-ce que c'est, faire un défilé dans la rue et manifester pour telle et telle chose? Guillaume citait l'exemple, effectivement, assez ridicule de ceux qui manifestent dans la rue avec des pancartes. Vous êtes homosexuel, Dieu vous déteste. Je pense pas que ce soit ça, être un chrétien radical. Je pense qu'un chrétien radical, c'est quelqu'un qui radicalement choisit de mettre la priorité sur ce que Dieu dit par rapport à ce que lui pense ou par rapport à ce que le monde pense. Et c'est à la fin de cette semaine, on va chacun retourner dans les endroits où Dieu nous a, pour le moment, disposés, appelés. Et Michael, effectivement, le rappelait tout à l'heure, quand on descend de la montagne, c'est immédiatement que Satan nous tourne autour pour essayer de ralentir notre zèle. Et notre défi va être, quand bien même mon cœur n'y est pas, quand bien même ma pensée n'y est pas, quand bien même ma chair n'y est pas, de me souvenir que Adam et Ève ont eu le même défi que moi, la parole de Dieu ou toute autre chose. Et on sait à travers les Écritures, avec d'autres exemples, que c'est toujours la parole de Dieu qui est lumineuse et qui me permet, quand bien même mes idées ne sont pas claires, de persévérer dans la vérité. Pour conclure, souvenons-nous de ce que Guillaume avait pu nous partager sur le fait que nous sommes dans une course, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rien que marcher dans le noir. C'est compliqué, hein. Je ne sais pas s'il y en a parfois qui essayent ce jeu. Moi, je m'ai mis souvent des choses d'enfant, désolé. Mais du coup, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'essayer de me repérer dans le noir. Et c'est assez compliqué, en fait, hein, parce qu'on n'a tout simplement pas de repère. Et on n'a pas été fait pour nous orienter dans le noir. On a été créé pour nous orienter dans la lumière. Et spirituellement et concernant la vie, on a été fait pour nous orienter selon la parole de Dieu. Donc, soyons encouragés à radicalement nous discipliner à faire toujours le choix de la parole de Dieu, de sa volonté, sachant que les promesses de Dieu sont vraies. N'avait-il pas promis que Adam et Ève mourraient? Mais en même temps, n'avait-il pas promis que ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ et qui le suivent jusqu'au bout auraient la vie éternelle? Et nous savons que ces paroles sont vraies, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est fort de cette promesse, fort de cette réalité, que j'aimerais que nous quittions cette semaine. Et surtout, garder en perspective la gloire à venir. J'aimerais juste lire un ou deux passages supplémentaires pour conclure. Prenons dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Qui nous dit donc des versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, l'auteur de l'Épître aux Hébreux venant de faire une liste de héros de la foi, qui n'ont pas vu leurs promesses forcément se réaliser ici, mais qui savaient que elles trouveraient un accomplissement dans le royaume de Dieu. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Oui, Jésus-Christ, n'ayant pas besoin de nous, étant lui-même déjà roi et glorieux, a néanmoins fait le choix de traverser la souffrance, de traverser l'épreuve, de traverser ce défi de l'obéissance, parce qu'il avait en perspective la joie à venir avec ses élus et ses sauvés, ses rachetés, n'est-ce pas? Et nous, à notre tour, inspirons-nous de notre chef, de notre maître, de notre sauveur et seigneur, et comme lui, fixons nos regards sur la réunion future et éternelle avec lui, et acceptons de courir selon les règles de la course, nous débarrassant du péché et de tout fardeau, cherchant l'obéissance et la réjouissance dans la loi de Dieu. Souvenons-nous par l'Esprit, Jean nous dit, pour ceux qui sont nés d'en haut, pour ceux qui sont nés de Dieu, sa loi n'est plus un fardeau. Amen. On peut prier.